petites notes que j'ai prises pendant les interventions, vous dire quelques réflexions. Tout d'abord, je suis très heureux d'entendre dire qu'il y a une tentative d'officialisation de l'institution noachide. Vous savez que c'est très important, on ne peut pas agir dans ce monde si on n'est pas organisé. Je suis très heureux de voir également que l'initiative, le flambeau, passe aux Noachides eux-mêmes. La question qui a été posée, entre autres, de savoir est-ce qu'il faudrait toujours que les groupes d'études soient supervisés par des rabbins. La même question peut se poser pour des juifs eux-mêmes. Jusqu'à quand est-ce que je dois dépendre de mon maître? Moi qui suis juif et étudie chez un maître, est-ce que je dois tout le temps étudier chez mon maître ou est-ce qu'il y a un moment où je deviens indépendant? Eh bien, la réponse c'est qu'il y a un moment. Étant donné que pour devenir indépendant, pour avoir une certaine autonomie dans l'étude, il faut pour cela des années d'études, des années d'études de proximité avec son maître. Alors évidemment, comme on n'en est encore qu'à la première génération, ça risque de prendre quelques années. Mais nous espérons que un jour, s'élèvent des maîtres internes au noachisme même, fidèles à la Torah, qui puissent continuer l'enseignement de leur maître, les rabbins d'Israël. Et je pense que ce jour n'est pas si loin qu'on le pense. Et pourquoi ne pas espérer même un jour une inspiration, même une inspiration divine, des grands maîtres qui pourraient se lever parmi les nations. Nous avons un enseignement du Tana de Viliyahu, un des anciens Midrashim, qui nous dit que l'Esprit Saint peut résider sur les membres de toutes les nations. Une des questions qui a été posée, à mon avis, est fondamentale. Qu'est-ce que le noachisme a ajouté à l'humanité, ou dans l'ensemble, qu'est-ce que la Torah ajoute à l'humanité, étant donné que nous sommes dans des sociétés civilisées? Eh bien, je vais vous dire ce que ça ajoute. Ce que la Torah ajoute au monde, ce que le peuple juif ajoute au monde, c'est la cheminée. La cheminée. Oui, une cheminée. Vous savez ce que c'est qu'une cheminée? Vous vivez dans un pays où il y a des cheminées. Dans mon pays, il n'y en a pas, mais ici, il y en a. La cheminée, c'est quand vous êtes dans une maison et vous avez un plafond. Eh bien, le plafond limite votre champ de vue. C'est très important qu'il y ait un plafond, parce que le plafond permet d'avoir une certaine stabilité. Imaginez qu'on soit tout le temps sous la coupe céleste, sous la voûte céleste. Mais il y a un endroit dans la maison où il y a un trou. Ce trou sert à beaucoup de choses, entre autres à faire passer la fumée. Mais il peut également donner la lumière. Si la cheminée est trop large, alors on est ébloui. Si elle est trop étroite, elle ne sert plus à rien, on est étouffé. Il faut qu'il y ait dans le monde une cheminée. Cette cheminée est donnée par la révélation transcendantale du Créateur à travers la parole de ses prophètes. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Un monde dans lequel il y a des philosophes, des scientifiques, des artistes, est un monde très beau, mais sans finalité. Et si on veut vraiment le bonheur des hommes, il faut arriver à une situation où le monde a sa cheminée. Pour ce qui est de l'étude, alors l'opinion qui a été présentée comme quoi l'étude serait réservée seulement aux 7 commandements est totalement rejetée par mon école. Il faudrait pour cela que j'ai le loisir de publier les livres de Halakha qui discutent de ces points-là. Et Bezrat Hashem, nous le ferons très bientôt. Nous avons d'ailleurs l'accord à ce propos de plusieurs sommités rabbiniques, dont par exemple le Rav Neventzal et le Rav Steinsaltz et d'autres rabbinimes en Israël. Je tiens à rassurer ceux qui se préoccupent de l'orthodoxie de notre mouvement. Nous avons eu des entretiens extrêmement intéressants avec toutes sortes d'autorités rabbiniques en Israël, aussi bien lituaniens que Haredi, que sionistes religieux, que Braslav et tout le reste. On peut dire notre orthodoxie est assurée pour ceux qui seraient éventuellement inquiets. Pour ce qui est du problème de rester à l'introduction qu'Alexandre Stanière a présenté, je pense que c'est très important effectivement d'approfondir l'étude de la Torah. Nous mettons actuellement en place un cursus de cours profond sur le judaïsme destiné aux Noachides par notre ami le Rav Chaim Goldberg. Et vous pouvez rentrer sur le site pour le faire. Comment savoir si une opinion est valable ou si elle n'est pas valable? Est-ce qu'un rabbin libéral est bon pour un noachide ou pas? Tout le point de savoir, est-ce que chacun doit décider lui-même quelle est l'option dans laquelle il croit? Étant donné que nous représentons ici le judaïsme dans sa tradition orthodoxe, il est évident que ce qui est en dehors de cette tradition, de notre point de vue, n'est pas acceptable, mais on peut toujours dire ça quand on a une opinion. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé une fois, comment est-ce que tu penses que toi seul as raison, que le monde entier a tort? Et j'ai répondu, mais bien sûr, c'est ce que pense toute personne qui a une opinion. Le fait que le noachisme soit fort, je pense qu'on peut dire que c'est ça le fondement de toute cette révolution qui est en train de se faire. Parce que du spiritualisme, on en connaît dans le monde entier. Transformer la société au nom du créateur du monde, au nom du Dieu d'Israël, je pense que c'est ça qui est fondamental. À savoir s'il pourrait y avoir un noachisme lituanien, un autre hassidique, un autre sioniste religieux, un autre breslave, etc., etc. Je voudrais vous donner ici une parole d'un de nos maîtres, le Rav David Hakohen de Jérusalem, qu'on appelait le Nazir de Jérusalem, qui disait « Moi, je prie comme les hassidim, j'étudie comme les lituaniens et je fais des recherches comme les académiciens. » Et c'est-à-dire que le monde de Dieu est formé de plusieurs facettes. Pourquoi adopter une seule facette? Je pense que il est vital, et ça je le dis à la suite de l'enseignement de M. Mizutani, que le noachisme soit alimenté par les noachides eux-mêmes. Je déclare ici publiquement mes péchés, je reçois une quantité absolument incroyable de lettres de noachides du monde entier auxquelles je ne réponds pas, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas le temps. Et donc plus vous insisterez, plus vous alimenterez par vos efforts le noachisme, et donc vous pousserez les rabbins à vous répondre, mieux ce sera. L'étude du Moussar, la morale juive, le Messilat Yesharim, le Chovot HaLevavot, toute cette littérature, à mon avis, doit faire partie intégrante de l'étude noachide. Point fondamental, il est très important, quelle que soit l'option que l'on a par rapport au judaïsme, que le noachisme soit pro-juif et non pas antisémite. Ça peut arriver. J'ai rencontré à Kiev un noachide déclaré antisémite et je pense qu'il est important d'éviter ce genre de piège. Le noachisme doit être pro-israélien, quelle que soit l'option politique que l'on a par rapport au conflit politique qu'il y a aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, l'État d'Israël, quel que soit ce qu'on en pense du point de vue de la Torah, fait partie intégrante de ce qu'est le peuple juif aux yeux des nations. Donc il faut être pro-juif, pro-israélien. Cela fait partie du projet du Créateur. Ce n'est pas dit dans un intérêt politique, mais comme une réalité morale. Je voudrais peut-être une petite dernière note à propos de l'interdiction du blasphème qui a été mentionnée plusieurs fois ici. Qu'est-ce que c'est que le blasphème? Je vais vous dire ce que disait un de mes maîtres, le Rav Yehuda Ashkenazi, qui disait « Le blasphème, c'est avoir une vision pessimiste du monde. Si on est capable de maudire celui qui a créé le monde, c'est qu'on pense que le monde est mauvais. » Et donc, ne pas blasphémer, ça veut dire être optimiste. On pourrait dire que tout optimiste, sur Terre, est quelqu'un qui croit réellement que le monde a un sens. C'est quelqu'un qui finalement, même s'il ne le sort, ne s'en rend pas compte, croit en la résurrection des morts. Parce que si on croit que la mort est la force la plus forte du monde, alors on est forcément pessimiste. Si on est optimiste, c'est qu'on pense que même la mort un jour sera vaincue.